Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Le Monde aujourd'hui, édition du jeudi 23 février 2017, en direct de Washington. Idrissa Sedoudia et Arnold Butson. On commence avec les titres.
En République démocratique du Congo, le gouvernement dépêche dans le Grand Kasaï une commission d'enquête après la vidéo mettant en cause des soldats congolais dans un massacre.
Au Gabon, soutien sans réserve de l'ancien candidat à la présidence Jean Ping à la grève des enseignants ainsi qu'aux marches des lycéens dispersés lundi par la police.
Les Nations Unies ont besoin de 4,4 milliards de dollars de financement d'urgence pour faire face à des situations de famine au Nigeria, en Somalie, au Soudan du Sud et au Yémen.
Visite du secrétaire d'État américain Rex Tillerson et de son collègue de l'intérieur John Kelly au Mexique pour des entretiens avec notamment le président Enrique Peña Nieto.
Pour parler de paix sur la Syrie, aujourd'hui à Genève, on ne s'attend pas à une percée immédiate.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En République démocratique du Congo, à la suite d'une vidéo mise sur les réseaux sociaux et qui montre des militaires congolais tuant des civils dans le Kasaï oriental, un appel a été lancé aux témoins et victimes afin d'aider les autorités à rétablir la discipline au sein de l'armée. Le ministre de la Communication et des Médias, Lambert Mende, l'a dit hier à la presse, tout en écartant l'hypothèse d'une commission d'enquête internationale. Selon lui, une commission de hauts magistrats militaires a été dépêchée dans le Grand Kasaï pour obtenir plus d'informations sur ces allégations. On écoute Lambert Mende au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Quiconque en Mbujimayi ou à Kananga a été témoin ou victime des faits que l'on voit sur ces images est appelé à les dénoncer auprès des auditeurs supérieurs près les cours militaires supérieurs de Kananga et de Mbujimayi pour aider à la manifestation de la vérité et aider les autorités à dire le droit, rétablir la justice, rétablir la discipline au sein de l'armée. Les magistrats qui se sont déployés sur terrain ont aussi mission, au cas où ces faits n'étaient pas avérés, de déterminer les circonstances de temps, de lieu et les motivations de ceux qui ont produit ces images et les ont mis sur la toile. Qu'est-ce qu'ils cherchaient comme objectif ? Si ces faits ne sont pas avérés, parce que l'enquête doit être complète pour comprendre exactement de quoi la République démocratique du Congo est l'objet aujourd'hui. Les ONG ne sont pas outillées pour mener des enquêtes judiciaires.
Toujours en RDC, les quatre partenaires et agents du parc de Kahuzi-Biega kidnappés le 21 février ont été relâchés le même jour, tard dans la soirée. Précision avec notre correspondant sur place, Ernest Mujero.
Il s'agit des deux ingénieurs, un Congolais et un Belge, un chef de chantier de nationalité congolaise et un conseil technique au PNKB de nationalité française. Les quatre personnes retenues contre leur gré ont été relâchées la soirée du même jour, selon le directeur du parc, Lucien Gédéon Lokoumou. Lokoumou précise qu'aucun touriste n'a été enlevé au parc, mais a eu plutôt un groupe de malfaiteurs espérant gagner de l'argent qui ont kidnappé ses agents et partenaires techniques pendant leur promenade hors périmètre touristique.
Ils étaient en dehors des zones que nous contrôlons. On a déployé une opération bien coordonnée parce qu'on a eu des instructions fermes de nos autorités que les gens ne puissent pas avoir des inquiétudes. Il n'y a pas d'insécurité dans le parc.
L'une des victimes de cet incident, le conseil technique du PNKB Jean Bourguet, témoigne.
Bon, il y a eu enlèvement. Les kidnappeurs, c'était pour l'argent, mais bon, pas spécialement professionnel. C'était géré comme il fallait. Donc ça a été réglé quand même assez rapidement.
Signalons que le parc des Kahuzi-Biega est situé à 37 km à l'ouest de Bukavu et de temps en temps, les communautés environnantes manifestent leur désapprobation vis-à-vis des limites du parc dont ils estiment les avoir privés des moyens de subsistance. Ernest Mouero, Bukavu, VOA Afrique.
Au Gabon, la grève des enseignants prend une tournure politique. L'opposant Jean Ping soutient sans réserve les marches des lycéens dispersées lundi par la police, John Lyndon.
Le principal syndicat d'enseignants a appelé tous ses membres à arrêter le travail en réponse aux sanctions annoncées mardi par le gouvernement contre 807 enseignants grévistes qui allaient être privés de soldes. Jean Ping soutient sans réserve les élèves ainsi que leurs manifestations, a écrit dans un communiqué l'opposant qui s'est autoproclamé président élu. Ce dernier condamne la violence policière exercée lundi contre des lycéens. À Libreville, Port-Gentil, Oyem et Lambaréné, des lycéens ont marché pour demander le paiement des bourses et la reprise normale des cours, dont la fin du conflit entre l'État et les syndicats d'enseignants en grève depuis le 31 octobre. Pour le porte-parole du gouvernement, Alain-Claude Bilivinzi, la marche a été empêchée parce qu'il n'y avait pas eu de demande d'autorisation.
Au Sénégal, Khalifa Sall, le maire de la capitale Dakar, a été auditionné mardi et mercredi par la police dans le cadre d'une enquête sur la gestion d'une caisse d'avance qui lui permet d'effectuer des dépenses dites sociales sans avoir à les justifier. Précision de notre correspondant Sedina Abagay.
Le maire de la capitale sénégalaise est sorti libre de son deuxième jour d'audition avec les enquêteurs de la division des investigations criminelles. Khalifa Sall est visé par une enquête sur la gestion financière de la mairie de Dakar entre 2011 et 2015. Il lui est reproché la tenue d'une caisse d'avance qui s'élève à près de 2 milliards de francs CFA sur ces 4 ans. Des fonds politiques qui seraient à la disposition du maire de Dakar qui les utilise à sa guise. Après son face-à-face avec les policiers, Khalifa Sall a dénoncé une cabale visant à éliminer politiquement des opposants. Il indique que ces fonds politiques existent depuis 1920 et qu'aucun maire n'a été appelé à justifier l'utilisation de cette caisse d'avance. Le maire de la ville de Dakar déclare qu'il préfère aller en prison plutôt que de donner les noms des bénéficiaires de cet argent. Sedina Abagay à Dakar pour la Voix de l'Amérique.
En Somalie, un jour après son investiture, le président Mohamed Abdullahi Farmadjo a nommé Hassan Aki Khayre au poste de Premier ministre. Monsieur Ali Khayre est un ancien directeur pour la Corne de l'Afrique du Conseil norvégien des réfugiés et aussi un haut responsable de la compagnie britannique de prospection pétrolière Soma Oil and Gas.
Plus de 500 réfugiés nigérians installés dans l'extrême nord du Cameroun par crainte des attaques du groupe djihadiste Boko Haram ont été rapatriés de force selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. L'HCR se dit très préoccupé par cette situation, démentant être impliqué dans ce refoulement.
Les Nations Unies ont besoin de 4,4 milliards de dollars de financement d'urgence pour faire face à des situations de famine au Nigeria, en Somalie, au Soudan du Sud et au Yémen, selon le secrétaire général Antonio Guterres. Plus de 20 millions de personnes sont dans des situations catastrophiques dans ces quatre pays et des actions sont nécessaires rapidement pour éviter des désastres humanitaires, a souligné mercredi M. Guterres lors d'une conférence de presse au siège des Nations Unies à New York.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson est arrivé hier à Mexico pour une visite de 2 jours. Monsieur Tillerson doit rencontrer à cette occasion le président Enrique Peña Nieto et plusieurs de ses ministres. Son collègue de la sécurité intérieure, John Kelly, va de son côté participer à ces différentes réunions. Il y a tension dans les relations entre les États-Unis et le Mexique. Un mois après l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, ce dernier a lancé le projet de construction d'un mur frontalier qu'il veut faire payer par son voisin du Sud et le département de la sécurité intérieure, en application d'un décret du 25 janvier de M. Trump, a établi mardi de nouvelles consignes pour accélérer les expulsions d'immigrés illégaux dont beaucoup sont mexicains.
L'émissaire spécial de l'ONU pour la Syrie a déclaré ne pas attendre de percée immédiate lors des pourparlers de paix qui se tiennent aujourd'hui à Genève. Il dit espérer que les parties pourront profiter de ce nouvel élan pour trouver un accord. Arzouma Compaoré.
À la veille de la reprise des discussions, Staffan de Mistura a annoncé que Moscou a demandé à Damas de stopper les raids aériens pendant la durée des pourparlers. La délégation du gouvernement de Damas et celle du Haut Comité des négociations qui rassemble des groupes de l'opposition sont déjà arrivées à Genève. Le médiateur s'est refusé à dire si ces délégations vont tenir des discussions directes. Il a ajouté qu'il n'attend pas de percée immédiate, mais le début d'une série de discussions. La Russie, la Turquie et l'Iran avaient réussi fin décembre à imposer une trêve qui a permis de réduire l'intensité des combats en Syrie. Toutefois, depuis quelques jours, les forces gouvernementales bombardent les positions rebelles près de Damas et dans la province de Homs. L'opposition dénonce un message sanglant destiné à saboter les négociations de Genève. Dans le sud, proche de la Jordanie, plus de 130 personnes ont péri en 3 jours de combat entre un groupe djihadiste proche de Daesh et des factions rebelles.
Irak, l'opération pour reprendre au groupe État islamique la partie ouest de Mossoul se concentre sur l'aéroport, considéré comme sa porte d'entrée. Les forces irakiennes veulent en prendre le contrôle avant de lancer l'assaut sur ce dernier grand bastion des djihadistes dans le pays. L'opération lancée par les forces irakiennes en est aujourd'hui à sa cinquième journée. Appuyée par la coalition internationale sous commandement américain, les troupes irakiennes ont consolidé leur position.
Ici aux États-Unis, l'administration du président Donald Trump a annoncé hier qu'elle mettait fin à un dispositif fédéral pour mieux protéger les droits des étudiants transgenres. Les ministères de la Justice et de l'Éducation ont publié un bref communiqué indiquant qu'ils retiraient les recommandations sur l'accès à des installations non mixtes, comme des vestiaires ou des toilettes, par exemple. Il revient donc de nouveau aux États de l'Union et aux districts scolaires de trancher. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Morgane Guiriec.
Transparency International s'interroge sur l'origine de l'or qui alimente la première raffinerie de l'Ouganda. L'organisation redoute qu'au moins une partie provienne de l'est de la République démocratique du Congo, où des milices rebelles se financent par la vente du métal précieux. Située à Entebbe, la raffinerie de la société belge African Gold Refinery a été officiellement inaugurée lundi par le président ougandais Yoweri Museveni. À faire des entreprises d'agrobusiness en Côte d'Ivoire, les souscripteurs des entreprises d'agrobusiness ont été induits en erreur et ont participé à une activité dont ils ignorent les règles. C'est en ces termes que s'est exprimé le ministre de l'Économie et des Finances, qui a invité les souscripteurs à s'inscrire dans les différentes agences du Trésor, munis de la preuve de leur souscription en vue du remboursement du capital investi. Quelques 13 000 souscripteurs ont été enregistrés en 2 jours, selon le Trésor public. Décentralisation de la Banque africaine de développement, Abidjan abritera les bureaux d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. C'est ce qu'annonce le président Akinwumi Adesina, qui prévoyait en décembre le départ de 800 à 900 personnes, soit environ 40% des effectifs de la BAD vers Nairobi, Johannesburg et Tunis. Ce chantier de décentralisation avait suscité la colère des autorités ivoiriennes, estimant avoir tout fait pour obtenir le retour du siège de la BAD, transféré à Tunis en 2003.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
En Ligue des Champions, la Juventus a un pied en quart de finale.
Rapidement en supériorité numérique, la Juventus Turin s'est imposée sur la pelouse de Porto 2-0 hier soir en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Mais la vieille dame, longtemps trop maladroite pour concrétiser sa longue supériorité numérique après l'expulsion précoce d'Alex Telles, n'a pas baissé les bras. La différence est venue du banc. Tous les deux remplaçants au coup d'envoi, Marco Pchaka puis Dani Alves, ont logiquement trouvé la faille pour placer les leurs sur la route des quarts de finale.
C'était plus serré à Séville.
Supérieur dans le jeu, Séville a battu Leicester 2-1, mais les Anglais gardent un espoir de se qualifier. En Andalousie, les buteurs de la soirée s'appellent Pablo Sarabia et Correa pour Séville. Jamie Vardy réduira le score pour les Anglais.
En Europa League, ça passe pour Manchester.
Battu 3-0 au match aller en Angleterre, la AS Saint-Etienne quitte l'Europa League en 16e de finale avec un revers 1-0 à domicile face à Manchester United. Match nul, un but partout entre Fenerbahçe et Krasnodar. Les Turcs sont éliminés après leur défaite au match aller. Et après sa victoire 3-0 en Grèce, Schalke 04 se contente d'un match nul 1-1 face au PAOK Salonique.
En République démocratique du Congo, pas de derby Saint-Éloi-Lupopo, Mazembe, ce jeudi à Lubumbashi.
Corbeau et Cheminot devaient s'affronter, mais la mairie de Lubumbashi a annulé la rencontre pour le compte de la journée de la zone centre-sud.
Et c'est pour des raisons de sécurité, Nicolas. Nous y reviendrons, je suis sûr, dans nos prochaines éditions. Merci Nicolas.
Le
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Dans son rapport publié hier, Amnesty International fait état concernant le Mali des violations des droits de l'homme commises par les groupes armés, l'armée malienne, la force Barkhane et les casques bleus. Kassim Traoré nous en dit plus.
Les rapports d'Amnesty International offrent l'analyse sur la situation des droits humains dans le monde, avec notamment des informations détaillées sur 159 pays, des résumés régionaux. Les rapports parlent aussi des exactions commises au Mali. Salif Fofana, directeur exécutif par intérim de Amnesty International Mali.
Les cas du Mali sont particulièrement relatifs surtout à les atteintes aux droits humains faites par les groupes armés. Vous avez également la restriction de la liberté d'expression. Vous avez également droit à l'éducation, vous avez également l'impunité qui est là encore, donc est devenue une culture. Vous avez encore également le niveau de vie très insuffisant et le regain de l'insécurité qui est là aujourd'hui.
Le document présenté à la presse reconnaît certains efforts consentis par les autorités maliennes dans le cadre de la promotion des droits de l'homme. El Béchir Singaré, chargé des affaires juridiques à Amnesty International Mali.
Pour ce qui concerne le Mali, bon, il y a la commission justice vérité qui tarde à être opérationnelle, mais quand même déjà qui s'est déployée pour être tout près des populations victimes, les entendre, recueillir des informations. Ça, c'est déjà quelque chose. Il y a la loi aussi qui a été prise en faveur du genre et qui a permis aujourd'hui l'augmentation substantielle du nombre d'élus femmes, plus de 2800. Ça, c'est déjà que c'est un progrès.
Les responsables d'Amnesty International Mali se réjouissent de l'application de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale.
Il y a l'effort que le gouvernement est en train de faire pour mettre en œuvre les accords d'Alger, malgré que cette bonne foi du gouvernement est souvent entravée par les tergiversations de certains acteurs de ces groupes armés.
Certains protagonistes de la crise malienne ne sont pas d'accord avec cette lecture de la situation, car il y a un blocage dans la mise en œuvre des autorités intérimaires. Abaye Ag Mohamed, secrétaire général du Congrès pour la justice dans l'Azawad.
Il y a un vrai malaise et nous allons tout droit au mur à cause de la désignation non consensuelle des autorités intérimaires dans les régions. L'État du Mali a une responsabilité globale d'ensemble pour ramener la paix, la stabilité au Mali. Nous estimons que l'État malien peut beaucoup. Donc, il faut lire clairement les préoccupations des communautés, les prendre en compte. On ne doit pas être prisonnier d'un accord sous couvert de la légalité, etc. On peut modifier cet accord. Et l'État malien est responsable en premier lieu de cet accord.
Dans ce rapport annuel 2016-2017, il est écrit « Un monde dans lequel les dirigeants politiques dénigrent et sacrifient encore et encore les droits humains est un monde dangereux ». Fin de citation. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
En République démocratique du Congo, la coalition des Congolais pour la transition, la CCT, appelle à la tenue des états généraux de la nation face au blocage constaté dans la mise en application de l'accord du 31 décembre 2016. Eddy Issango, adjoint le président de la CCT, Emery Kalwira.
Sincèrement parlant, la distraction actuelle est entretenue de part en part par ce qu'il s'agit désespérément pour accéder aux privilèges du pouvoir sans une crédibilité quelconque, dans une humiliation déplorable. Ni le dialogue facilité par l'Union africaine, ni celui facilité récemment par l'Église catholique, aucun de ces travaux n'a obtenu l'onction populaire des Congolais, car ils avaient pour seul but de violer la Constitution, de maintenir au pouvoir un homme qui n'a aucun bilan et puis d'essuyer l'image du Congo au niveau national et international. C'est pour ça aujourd'hui, nous disons, il est temps que nous ne puissions plus regarder ailleurs pendant que le Congo est à côté de l'implosion. Et à toute la communauté internationale qui veut visiblement accompagner le Congo à sortir de cette crise, il nous faut comprendre que M. Kabila constitue le problème vital pour le Congo et pour la paix nationale. Donc ici, ce que nous demandons, c'est les états généraux de la nation pour sortir avec les institutions intérimaires, parce que M. Kabila, en réalité, il n'a aucun pouvoir ni de nommer ni de révoquer. M. Kabila, c'est un ancien président, et tous ceux qui veulent chercher la solution avec lui, ils sont tout simplement en train d'amplifier le problème.
Ça sera là la troisième vague de tractations. Qu'est-ce qui vous garantit que cette fois-ci, votre proposition va réussir?
Cette proposition, elle est la volonté de la majorité des Congolais qui, au prix du sang, se battent depuis longtemps pour s'opposer à tout dialogue proposé par M. Kabila. L'histoire retient la centaine de Congolais qu'on a assassinés pendant que quelques individus dialoguaient à la cité de l'OIA. L'histoire retient également qu'en décembre, pendant que quelques individus étaient enfermés dans une salle, soi-disant pour dialoguer, il y a eu plus de 200 Congolais tués par les miliciens de Kabila et d'autres ont été arrêtés.
Vous excluez Kabila, pourtant les dialogues tenus sous les évêques et vous voulez éviter un bain de sang. Il a encore l'armée, il a encore la capacité de nuisance.
Monsieur Kabila participera aux états généraux de la nation congolaise comme un citoyen ordinaire vêtu d'un statut d'ancien président de la République.
C'était Emery Kalwira, président de la coalition des Congolais pour la transition. Il nous parlait de Bruxelles.
VOA Afrique, 24h sur 24, à Kisangani, en RDC, sur 97.7 FM.
L'unification des gouvernements rivaux est la seule voie possible pour la paix en Libye. C'est l'avis du responsable du commandement militaire des États-Unis pour l'Afrique, le général Thomas Waldhauser, participé à la récente conférence sur la sécurité de Munich en Allemagne, avant le lancement de l'opération Flintlock, un exercice militaire mené conjointement avec 7 pays africains. Jacques Aristide nous en dit plus.
La Libye est plongée dans le chaos depuis la chute de Muammar Kadhafi. Le pays est gangrené par ses rivalités politiques. Le gouvernement d'Union nationale, soutenu par la communauté internationale, ne contrôle qu'une partie de Tripoli, où des exécutifs concurrents tentent également d'asseoir leur pouvoir. Dans l'est du pays, le blocage est encore plus marqué. La Chambre des représentants ou Parlement de Tobrouk s'est alliée avec le maréchal dissident Khalifa Haftar. Les États-Unis se disent en faveur d'un accord interlibyen à Munich, le général Thomas Waldhauser.
Il ne fait aucun doute que nous devons aborder le cas Haftar et l'influence qu'il exerce. Nous disons qu'une solution politique doit être trouvée. C'est là que tout commence.
Les forces de Haftar contrôlent la plupart des champs de pétrole libyens. Le géant pétrolier russe Rosneft vient de signer un accord avec la compagnie nationale pour investir des milliards de dollars dans les hydrocarbures en Libye, preuve du fort soutien de Moscou au maréchal Haftar. Le général Waldhauser reconnaît que la Russie jouerait probablement un rôle dans toute solution.
L'objectif est d'amener ces parties à se réunir et à se parler.
L'Amérique a mené une campagne aérienne soutenue contre les djihadistes du groupe État islamique en Libye et a déployé en janvier dernier des bombardiers B-52 pour cibler des camps d'entraînement. Le commandement américain pour l'Afrique est en train de nouer des partenariats dans la région du Sahel afin de lutter contre le terrorisme dans le cadre de l'opération Flintlock. Le Nigeria bénéficie de l'aide américaine dans le domaine du renseignement pour combattre Boko Haram. Pour le général nigérian Babagana Monguno, un tel regroupement des réseaux terroristes requiert la coopération internationale dans la lutte antiterroriste.
La révolution en Libye et la capitulation du gouvernement de Kadhafi ont abouti à un trafic d'armes et d'êtres humains vers le sud. Le Nigeria a été le lieu le plus visé en Afrique subsaharienne.
Des soldats nigérians combattant Boko Haram ont été accusés d'abus par l'ONG Amnesty International. Pour le général Waldhauser, les militaires américains prennent de telles allégations au sérieux, surtout quand elles touchent leurs partenaires.
Nous comprenons l'exigence de l'éthique sur le champ de bataille. Cela fait partie de notre formation. Il y a aussi des aspects juridiques, des sujets sur lesquels nous mettons l'accent dans nos discussions avec les dirigeants.
L'opération Flintlock implique quand plus de 2000 soldats de 20 pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique du Nord démarre bientôt et va durer 3 semaines.
La Haute Cour d'Afrique du Sud a rendu son jugement hier. Le gouvernement ne peut pas décider de son retrait de la Cour pénale internationale sans l'approbation du Parlement. Reportage d'Anita Powell, notre correspondante à Johannesburg, repris ici par Claire Morin-Gibourg.
Même s'ils ont brièvement fêté leur victoire, les militants pro-CPI le savent, la lutte pour le maintien de l'Afrique du Sud au sein de la Cour pénale internationale n'est pas terminée. La lettre d'intention de retrait de la CPI a été faite en octobre par le gouvernement, mais la Haute Cour a statué que seul le Parlement peut prendre une telle décision. Le gouvernement est composé de partisans de l'ANC, le Congrès national africain, le parti au pouvoir, de sorte que leur décision de se retirer de la CPI n'a pas permis à l'opposition de s'exprimer. Cette décision unilatérale a incité les militants de l'opposition de l'Alliance démocratique à saisir les tribunaux. Kajal Ramjatan Keog dirige le centre de contentieux de l'Afrique australe qui a été appelé à intervenir sur cette affaire.
Je ne pense pas que cela signifie que l'Afrique du Sud va rester au sein de la CPI. C'est même plutôt le contraire. L'Afrique du Sud est déterminée à quitter la Cour pénale internationale et je pense qu'elle va désormais suivre la procédure officielle pour que le retrait se fasse de manière légale.
Madame Ramjatan Keog affirme que les partisans d'un retrait de la CPI vont devoir recommencer à zéro et déposer une requête au Parlement où il est probable que l'ANC majoritaire se battra pour que le retrait soit voté. La directrice du Centre pour les droits constitutionnels, Fefe Lafi Doubé, précise que cette décision permet aux opposants de contribuer au débat.
Maintenant que ce processus est revu par le Parlement, cela va permettre plus de transparence et les citoyens pourront aussi participer au débat.
Pour ces deux spécialistes juridiques, il ne fait pas de doute que cette question sera réglée par les politiques. L'ANC, qui est majoritaire au Parlement, s'est fortement prononcée en faveur du retrait. Mais l'opposition va se battre âprement, déclare Stevens Mokgalapa, député de l'opposition et ministre des Relations internationales et de la coopération.
Nous allons certainement citer ce jugement comme une base pour le non-retrait de la CPI et nous continuerons à contester par le biais des processus parlementaires tout effort pour se retirer de la CPI.
La Gambie a récemment renoncé à quitter la CPI, mais pour Fefe Lafi Doubé, cela ne va pas suffire à convaincre d'autres pays africains de rester au sein de la CPI. Surtout après que l'Union africaine a déclaré le mois dernier qu'elle soutiendrait tout pays qui déciderait de se retirer de la Cour pénale internationale.
Dans Washington Forum cette semaine, Donald Trump déclare la guerre à l'immigration clandestine. Sur plus de 11 millions de clandestins présents aux États-Unis, tous sont potentiellement expulsables. Quid de ces sans-papiers arrivés enfants sur le territoire? Cette procédure d'expulsion accélérée, sans passer par la case justice, crée un climat de peur. Qui est concerné exactement? La justice américaine peut-elle une nouvelle fois contrecarrer les plans de l'administration Trump? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Et rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel, avec Tatiana Mosso et ses invités.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlons des effets du tabac sur la santé.
Nous nous sommes rendus en République démocratique du Congo pour toucher du doigt la réalité du phénomène.
Nous recevons comme invité le professeur Jean-Marie Kayembe. Il est pneumologue. Il nous expliquera comment se développe la dépendance chez les fumeurs et les conséquences sur le corps humain.
Nous écouterons le témoignage du docteur Abraham Mifundu, expert au comité interministériel de lutte contre la drogue. Il nous dira ce que font les autorités pour réduire la consommation du tabac.
Votre santé, votre avenir est un programme de VOA Afrique diffusé tous les samedis, les dimanches et les mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.